Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 6 janvier 2025. Voici le sommaire. Journée à haut risque ce lundi en Guinée, les forces vives de l'opposition et de la société civile appellent à manifester pour mettre fin à la transition militaire. Le leader de l'opposition mozambicaine annonce son retour d'exil jeudi prochain, au moment où des tensions post-électorales ont fait des dizaines de morts. Au Cameroun, des évêques de l'église catholique dénoncent la mauvaise gouvernance et s'opposent à une nouvelle candidature de Paul Biya à la présidentielle de novembre prochain après 41 ans au pouvoir.
On interdit aux Camerounais d'exprimer leur souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le compresseur?
Le reportage de notre correspondant à Yaoundé à suivre dans la partie magazine. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Folognon et les sports présentés par Élisée Oumpatine. Mais pour commencer, voici le journal. En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile appellent à des manifestations à Conakry pour réclamer le départ de la junte au pouvoir. Selon un communiqué des forces vives de Guinée, le collectif regroupant ces partis et organisations, les manifestations dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur. Ce collectif avait par ailleurs réaffirmé sa volonté de ne plus reconnaître le pouvoir dirigé par les militaires à partir du 31 décembre 2024, date de la fin de la période dite de transition. Le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, avait annoncé mardi dans un discours à l'occasion du Nouvel An que 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel, mais sans donner de date précise. Auparavant, le régime s'était également organisé avant la fin de l'année 2024 un référendum constitutionnel qui ne s'est pas tenu. L'armée malienne a affirmé durant le week-end avoir arrêté deux terroristes, dont un chef de premier plan de l'organisation djihadiste État islamique au Grand Sahara. Elle affirme également avoir tué plusieurs de ses combattants dans une opération la veille dans le nord du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, l'armée confirme l'arrestation de Mohamed Ould Erkehil, surnommé Abu Rakia, et récemment Abu Hash, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara. L'armée présente Abu Hash comme un terroriste longtemps recherché et connu des services de renseignement pour sa responsabilité et la coordination des pires exactions et abus contre les populations dans la région de Menaka et Gao, ainsi que les attaques contre les forces armées maliennes. L'opération menée vendredi par les unités engagées dans la région de Gao a également permis la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires, y compris d'innombrables matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, dit le communiqué. Le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique.
Le principal opposant mozambicain Venancio Mondlane, qui a dirigé depuis l'étranger des manifestations dénonçant les résultats des élections d'octobre, au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées, a annoncé dimanche son retour la semaine prochaine. L'opposant avait quitté le Mozambique aux alentours du 21 octobre, disant craindre pour sa vie après l'assassinat de deux de ses proches. Depuis la proclamation des résultats des élections du 9 octobre, il conteste sa défaite face au candidat du parti au pouvoir depuis un demi-siècle, le Frelimo. Deux mois de manifestations, de grèves et de blocages ont coûté la vie à quelque 300 personnes, pour la plupart des manifestants tués à balles réelles, d'après une ONG locale. ARDC, la rébellion du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de Masisi. Il s'agit d'une ville clé dans l'Est congolais. Rosine Munezero.
C'est avec consternation que nous apprenons la prise de Masisi Centre par le M23, a indiqué Alexis Bahunga, député de la province du Nord Kivu, où la ville de Masisi est située. Nous demandons au gouvernement des mesures visant la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, a-t-il ajouté, évoquant un territoire plongé dans une crise humanitaire grave. Le centre de la ville est calme pour le moment, mais des civils ont fui vers des hôpitaux pour échapper à des coups de feu tirés plus tôt dans la journée de samedi, a indiqué une source hospitalière sous le couvert de l'anonymat, ajoutant qu'il y a eu des blessés côté civil, mais que jusque-là, aucun décès n'a été enregistré à l'hôpital. Massissi est situé à environ 80 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, sur une route menant dans l'intérieur du pays. Depuis novembre 2021, la rébellion du M23 s'est emparée de vastes pans du territoire dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles et déchirée depuis 30 ans par des conflits.
Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a salué une initiative turque visant à résoudre le conflit qui déchire le pays depuis 20 mois, des efforts de médiation également salués par les Émirats arabes unis. Eric Manirakiza.
Lors d'une réunion tenue le week-end à Port-Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a exprimé au vice-ministre turc des Affaires étrangères le soutien des dirigeants soudanais à l'initiative proposée par le président turc, selon les déclarations du ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Youssef. Le Soudan a besoin de frères et d'amis comme la Turquie, a déclaré M. Youssef, ajoutant que l'initiative pouvait conduire à la réalisation de la paix au Soudan. Début décembre, M. Erdogan avait déclaré lors d'un entretien téléphonique avec le général Burhan que son pays pourrait intervenir pour résoudre les différends entre le Soudan et les Émirats arabes unis, ainsi que pour établir la paix et la stabilité au Soudan. Le gouvernement soudanais soutenu par l'armée a accusé à plusieurs reprises les Émirats arabes unis de soutenir les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, des allégations systématiquement réfutées par les Émirats. En décembre, Khartoum a affirmé que les FSR avaient utilisé des drones assemblés aux Émirats pour des attaques depuis le territoire tchadien. De son côté, N'Djamena a catégoriquement démenti toute implication dans le conflit interne au Soudan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé ce lundi en Corée du Sud. Sa visite intervient en pleine crise politique après la destitution du président Yoon Suk-yeol pour sa tentative le 3 décembre d'imposer la loi martiale. Jean-Roger Bion.
Monsieur Blinken entame ce qui sera probablement son dernier voyage officiel avant l'investiture de Donald Trump, avec des étapes également prévues au Japon et en France. Il rencontrera son homologue Cho Tae-yul ce lundi, le jour même où expire un mandat d'arrêt émis contre Yoon Suk-yeol. Dans un communiqué, le département d'État n'a pas directement évoqué la situation politique sud-coréenne, mais a souligné que M. Blinken chercherait à préserver la coopération trilatérale avec le Japon, qui a notamment permis d'accroître le partage de renseignements sur la Corée du Nord. Dimanche, devant sa résidence, les partisans de Yoon Suk-yeol ont été présents en nombre pour réclamer l'annulation de sa destitution par le Parlement. Les opposants du président déchu, quant à eux, exigent son arrestation après une première tentative infructueuse des enquêteurs, tenue en échec vendredi par la garde présidentielle. Les enquêteurs ont jusqu'à 15h GMT ce lundi pour exécuter le mandat d'arrêt émis contre M. Yoon afin de le contraindre à répondre aux questions sur sa brève mise en œuvre de la loi martiale.
Par ailleurs, le service anticorruption chargé de l'enquête sur la loi martiale en Corée du Sud a annoncé ce lundi qu'il allait demander à la justice un délai supplémentaire pour arrêter le président déchu Yoon Suk-yeol, retranché dans sa résidence de Séoul. Le mandat d'arrêt, délivré le 31 décembre par un tribunal de Séoul, expire ce lundi à minuit heure locale, 15h GMT. Une dangereuse tempête hivernale s'est abattue hier dimanche sur le centre des États-Unis où des millions de personnes sont menacées par des conditions de blizzard. Plus de 60 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire de la tempête qui va balayer les États-Unis du centre jusqu'à l'est avec de l'air arctique jusqu'à ce lundi et entraîner de fortes perturbations des déplacements. Le service météorologique national a prévenu contre les risques de verglas, neige et vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'aux États côtiers du Maryland, du Delaware et de la Virginie, soit une bande de territoire large de 2400 km. L'agence a averti que certaines régions connaîtraient leur plus forte chute de neige depuis 10 ans. Le premier ministre canadien Justin Trudeau, sous pression depuis des semaines, pourrait annoncer sa démission dans les prochains jours, a rapporté dimanche le journal The Globe and Mail, citant trois sources anonymes au fait des affaires internes du parti. Le quotidien indique que l'annonce de M. Trudeau pourrait intervenir dès ce lundi. L'annonce serait faite en amont d'une réunion nationale de son parti, prévue mercredi, selon les sources du Globe and Mail. Jusqu'ici, Justin Trudeau, qui avait annoncé son intention de se représenter, est crédité dans les sondages de plus de 20 points de retard sur son rival conservateur Pierre Poilievre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Vollignon.
Le Ghana annonce une exemption de visa pour les Africains dotés d'un passeport. La mesure prend effet à partir du début de cette année, a annoncé le président sortant, marquant la volonté d'accentuer l'intégration économique continentale. Cette annonce intervient quelques jours avant que Nana Akufo-Addo quitte le pouvoir ce 6 janvier, après deux mandats successifs. John Mahama, candidat de l'opposition vainqueur de la présidentielle de décembre, lui succède. Le président américain Joe Biden a annoncé qu'il bloquait le rachat prévu du grand nom de l'acier américain US Steel par le géant japonais Nippon Steel. Selon Biden, cette fusion placerait l'un des plus grands producteurs américains d'acier sous contrôle étranger et poserait des risques pour la sécurité nationale et la chaîne d'approvisionnement essentielle. General Motors est de nouveau arrivé en tête des ventes de véhicules aux États-Unis en 2024, devant Toyota, notamment grâce aux voitures électriques qui ont encore accéléré au quatrième trimestre. L'an dernier, General Motors a écoulé 2,7 millions de véhicules, soit 4% mieux qu'en 2023, selon un communiqué publié vendredi.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Onpatine. Salut Élisée.
Bonjour Mouhamadou et bonjour à tous.
On parle uniquement football ce matin avec la quatrième journée des interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, Al Hilal du Soudan devra patienter avant de valider sa qualification pour les quarts de finale.
Oui, la faute à ce nul. 1-1 concédé à domicile face au Mouloudia d'Alger. Le club de Ondouman, invaincu dans ce groupe A, compte 10 points à 5 unités de son adversaire du jour. Les Tanzanais de Yanga, vainqueurs 1-0 du TP Mazembe, se replacent dans la course à la deuxième place. Quant aux Marocains de l'ASFA, ils se rapprochent aussi des quarts de finale après avoir battu 2-0 les Congolais de Maniema Union. Les militaires de Rabat occupent la première position du groupe B avec 8 points, suivi des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, battus 1-0 par le Raja de Casablanca.
Le second représentant sud-africain, Orlando Pirates, prend lui les commandes du groupe C.
Le club de Soweto, après avoir fait voler en éclats le stade d'Abidjan 3-0, passe devant le National du Caire, défait 1-0 par les Algériens du CR Belouizdad. Orlando Pirates réunit 8 points, un de plus que le tenant du titre Al Ahly et 2 sur le Shabab. Enfin, c'est plus que serré dans la poule T après la défaite de l'Espérance de Tunis au Caire 1-0 devant Pyramide. Ce précieux succès permet aux Égyptiens de rejoindre les Tunisiens en tête du classement avec 7 points. Les Angolais de Sagrada Esperanza sont 3e avec 5 points après avoir réalisé l'essentiel 1-0 face aux Maliens de Tchouliba, toujours bon dernier.
Élisée, par contre, en Coupe de la Confédération, il y a déjà un qualifié pour les quarts de finale.
Tout à fait, Mouhamadou. Il s'agit de la Renaissance du Berkane, qui a réussi le carton plein, 4 victoires en 4 matchs. La dernière, c'était hier à Bamako, 1-0 aux dépens du stade malien. Les Marocains, qualifiés pour le tour suivant, ont 6 points d'avance sur les Sud-Africains de Stellenbosch, victorieux 2-0 des Angolais de Lunda Soul. Les Maliens descendent à la 3e place, avec 4 points. Une position qui met en difficulté le club quand on écoute son entraîneur, Mamoutou Kane Mourlé, qui l'assume.
Un match compliqué, difficile. Des entames du jeu, j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, je peux rien reprocher à mes joueurs. Tout ce qui n'a pas marché, peut-être c'est moi, et je l'assume. Je les félicite pour le courage, la détermination, l'engagement qu'ils m'ont donné. Ça veut dire que cette équipe, malgré les défis techniques, cette équipe peut remporter la Coupe d'Afrique.
Mamoutou Kané Mouroulé, entraîneur du stade malien au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Dans le groupe A, deux clubs ont pris une sérieuse option sur la qualification.
Oui, les Algériens du CS Constantine et les Tanzanais de Simba. Les deux clubs totalisent 9 points chacun suite à leur succès respectif. 4-0 sur les Angolais de Bravos Tomaki et les Tunisiens du club sportif Sfaxien. Sinon, dans les autres matchs, l'USM Alger, après son nul 1-1 à Abidjan devant la SEC, conserve la tête du groupe C avec 8 points devant les Mimo qui en compte 5. Le Tcharab du Dakar prend la 3e place après avoir battu 1-0 les Botswanais d'Urapa United. Sa première victoire après 4 journées.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Cameroun, certains évêques de l'Église catholique dénoncent une éventuelle nouvelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle prévue cette année. Certains prélats ont également appelé dans leur homélie à une alternance politique au Cameroun. Paul Biya, 93 ans, a déclaré dans son discours de fin d'année avoir la détermination intacte à continuer à servir. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Dans une vidéo devenue virale, Mgr Yaouda Ourgo, évêque du diocèse de Yagoua, dans la région de l'extrême nord, appelle à une alternance politique au Cameroun au cours de son homélie de nouvel an.
La plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la pâte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le compresseur.
Dans une autre vidéo virale tournée le 1er janvier dernier, l'évêque de Ngaoundéré s'insurge, quant à lui, contre les menaces faites aux Camerounais qui veulent dénoncer leurs souffrances.
On ne va pas nous dire plus ça. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen.
Amen.
Ces prises de position de prélats sont dans l'ordre des choses. Selon Étienne Bakaba, vicaire à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala.
Que lorsque le pays baigne dans la malgouvernance, dans la corruption, il y a abus sur la personne humaine. C'est une mission hautement prophétique. Donc, les évêques ne peuvent pas se contenter aujourd'hui dans un contexte comme celui-ci de rester dans le confort de leur sacristie. Ils doivent sortir pour éclairer les chrétiens sur les questions sociales à partir de la lumière de l'Évangile.
En fin d'année dernière, Paula Tanganji, ministre de l'administration territoriale, avait annoncé être en possession d'éléments contre certaines associations religieuses qui brandissent l'épouvantail du chaos en 2025. Le ministre avait alors prévenu.
Toutes ces personnes qui jettent de l'huile sur le feu n'ont qu'à bien se tenir durant toute l'année 2025. Il n'y aura pas d'espace pour les porteurs de troubles, quel que soit leur titre ou grade. L'ordre public sera maintenu et renforcé. En toutes circonstances, force restera à la loi.
Dans une lettre ouverte au prélat, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, dénonce, je cite, une exagération blasphématoire, attentatoire au fondement biblique. Fin de citation. Sur sa page Facebook, Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC au pouvoir, tempère, ne soyons pas violents envers les évêques, même quand ils font l'apologie du diable, gardons notre sérénité et continuons à travailler en intégrant bien ce qu'on nous reproche pour le corriger, a-t-il écrit. C'est dans ce contexte qu'une rencontre de tous les évêques du Cameroun s'est ouverte dimanche à Bouya, dans la région du Sud-Ouest, et va être sanctionnée par une déclaration très attendue de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Gabon s'achemine vers la fin de la transition qui sera sanctionnée par de nouvelles élections que les autorités militaires veulent libres et transparentes. Pour préparer le processus électoral, le gouvernement vient de lancer l'opération d'enrôlement des électeurs. Elle court jusqu'au 31 janvier prochain. Le point avec notre correspondant au Gabon, Ismaël Obianze.
Un début d'enrôlement d'électeurs plutôt timide. À Libreville, pas encore grand monde devant les centres d'inscription dédiés à l'opération. En cause d'énormes retards administratifs à l'allumage, comme l'a constaté Dominique, cet électeur septuagénaire régulièrement inscrit à la mairie du 3e arrondissement.
Je n'ai pas pu supporter pour revenir l'après-midi. Je préférais attendre quelque part. Et je suis revenu. Et ils m'ont pris la carte, ils m'ont vu, puis ils m'ont aidé, ils ont découvert où nous sommes. Et j'ai signé devant ma photo.
Sous une tente dressée derrière les locaux de la mairie de Nobakélé, les équipes du ministère de l'Intérieur bouclent à peine l'affichage des listes. Une base de données qui servira aux réclamations et aux éventuels ajustements. Marc Junior, l'un des coordonnateurs de la révision des listes électorales.
Je rassure la population que l'enroulement va bien se passer. C'est l'autorat est déjà affiché. Nous attendons juste les Gabonais pour venir vérifier les noms sur les listes, voir s'ils sont bien sur les listes électorales.
Mais derrière l'opération en cours se joue la crédibilité de l'ensemble du processus électoral. Des voix s'élèvent pour dénoncer une campagne qui viole le chronogramme de la transition, en plus d'être en totale contradiction avec la refonte attendue du code électoral. Enseignant de droit, Ali Akbar Onanga note que le fichier actuel comporte des anomalies.
Notamment la question majeure des décédés qui figurent dans le fichier actuel. Les multiples inscriptions. Vous avez également un problème majeur, celui des déséquilibres, je dirais injustifiés, entre les provinces. Ce fichier, c'est celui sur la base duquel nous avons organisé l'élection 2023 qui a donné lieu à un coup d'État. Le bon sens voudrait qu'on ne puisse pas l'utiliser pour organiser l'élection présidentielle 2025.
Pour le gouvernement, comme pour ses soutiens, l'urgence de sortir de la transition commande toutes les initiatives prises en amont des prochaines élections. Abbé Bruno Ondo, vice-président du parti, réagir.
Les deux opérations peuvent se faire de façon concomitante sans nécessairement qu'il y ait télescopage. Je suis totalement surpris de voir qu'une certaine classe politique s'oppose à ce que la transition, non seulement que l'agenda soit respecté, mais que la transition soit plus courte.
Une guerre d'interprétation de texte avant la tenue des prochaines élections prévues cette année et dont le calendrier officiel se fait toujours attendre. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Tchad, les résultats provisoires des élections législatives communales et provinciales du 29 décembre 2024 ne seront pas connus avant le 15 janvier. Plusieurs candidats dénoncent des irrégularités qui ont entaché ce scrutin dans certains départements et exigent l'application et le respect du code électoral. André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
La tenue de ces trois élections le même jour est un pari gagné, estime le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, car, dit-il, elle marque le retour définitif à l'ordre constitutionnel, l'effet du Tchad d'un bon élève en matière de la démocratie dans la sous-région.
La tenue apaisée des élections législatives communales et provinciales du 29 décembre dernier marque ainsi la dernière étape de la transition politique dans notre pays, devenue un exemple dans la sous-région et partout dans le monde. Le Tchad est en paix parce que les Tchadiennes et les Tchadiens ont eu la paix pour leur pays qui a longtemps souffert de la guerre.
Pour l'activiste Rassou Gagé, la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre, mais aussi la tranquillité d'esprit.
Le peuple tchadien veut le dirigeant qu'il veut. On nous impose les gens et on dit démocratie. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais notre démocratie, où on te fait voter même par la force, quel modèle de démocratie mondiale? On dit qu'on est en paix, c'est pas l'absence de la guerre. Le vrai problème est là parce qu'on n'a pas une justice qui est à la portée de tout le monde. Tu vas voter ou pas? Le résultat est là. dans les ordinateurs. Ça, c'est un échec total. Même dans la capitale, les gens ne sont pas sortis.
Selon le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Barchiri, ces élections se sont déroulées dans de bonnes conditions en dépit de quelques manquements mineurs. Il met en garde certains candidats qui crient victoire à travers des déclarations inopportunes et illégales, célébrant même déjà leur victoire.
Il convient ici de rappeler à ces candidats et aux partis et regroupements de partis politiques qui les portent que selon le code électoral, n'étant pas destinataires des procès-verbaux des bureaux de vote, ils ne sont nullement habilités à proclamer les résultats des élections. Il n'est pas superflu de rappeler les acteurs politiques qui concourent au suffrage universel que le code électoral a prévu des sanctions, y compris pénales, qui s'appliquent à ceux et celles qui ont des comportements déviants vis-à-vis de la loi.
Plusieurs partis et regroupements de partis politiques qui ont présenté leurs candidats à ces élections dénoncent l'ouverture tardive de certains bureaux de vote, le manque des urnes et des bulletins de vote, le bourrage des urnes. Rassam Mouga, secrétaire général adjointe de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement, attire l'attention des organes chargés d'organiser ces élections sur ces irrégularités.
Nous appelons d'ores et déjà l'ANCE à traiter avec objectivité, impartialité et indépendance les différents procès-verbaux issus de ces élections, à l'effet d'éviter au pays toute convulsion politique et le Conseil constitutionnel d'en donner un gage de crédibilité quant à la diligence à faire en cas de contentieux et sur les irrégularités mises en avant tant par les candidats que par les observateurs et surtout pour la proclamation définitive des résultats.
Pour le parti Les Transformateurs, avec le boycott massif des élections législatives et locales, une nouvelle transition est devenue une évidence. André Kodouma Dingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a accordé une clémence à certains prisonniers et commué la peine de certains, parmi lesquels des condamnés à la peine de mort à la prison à perpétuité. Pour comprendre la portée de cette mesure présidentielle annoncée à l'occasion de la nouvelle année, Eddy Sango a joint un des avocats au barreau de Kinshasa, Maître Willy Wenga.
Principalement, il a accordé la grâce présidentielle à tous les condamnés à mort. Il a réduit la peine de certains détenus. Il a commué certaines peines de la peine de mort à la peine à perpétuité, de la peine à perpétuité à la peine de 20 ans de servitude pénale. Et il a réduit les peines de certains détenus de 5 ans. Ce qui fait que certains détenus qui étaient dans l'attente d'exécution de leur peine de mort ne seront plus exécutés. Et ceux qui étaient là à perpétuité pourront désormais compter le nombre d'années qu'ils feront dans la prison, pour autant qu'ils n'interviennent pas d'autres mesures de clémence. Deuxième chose, c'est que les mesures prises par les chefs de l'État ne concernent que les personnes condamnées définitivement, donc qui n'ont plus de recours à exercer, ou s'ils exerçaient les recours, ces recours n'ont pas abouti ou ils ont été jugés au premier et dernier ressort. Donc voilà la catégorie procédurale des personnes concernées. Quant aux infractions commises, certaines personnes qui ont commis des infractions de détournement, des infractions de viol, des infractions de main armée, les infractions diverses d'attaques contre les institutions et autres qui ont été citées dans l'ordonnance ne peuvent pas bénéficier des mesures de clémence prises par le chef de l'État.
Voilà, nous voulons savoir, la RDC a levé les moratoires sur la peine de mort, mais maintenant le président Félix Tshisekedi a accordé une grâce à tous les condamnés à mort. Ça veut dire que la peine de mort ne sera pas appliquée pour ces gens-là et pour le pays.
Donc le moratoire de la peine de mort a été levé, donc le cours de tribunaux prononce désormais la peine de mort et il est possible qu'on l'exécute pour autant que le président de la République n'accorde pas sa grâce. Mais ici, le président de la République vient d'accorder sa grâce à tous les condamnés à mort, comme pour dire que cette peine-là ne s'appliquera plus. Comme pour dire que par rapport aux détenus, il n'y a pas encore de détenus qui sont connus d'avance qui seront libérés du fait d'avoir terminé l'état qui leur est resté à purger comme peine du fait de la réduction ou de la remise de la peine. Le travail reste maintenant au ministre de la Justice.
Qu'en est-il alors de prisonniers politiques ont-ils bénéficié aussi de cette grâce?
Oui, en fait, les prisonniers politiques, pour autant que leur condamnation est devenue définitive, et pour autant que les infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis ne rentrent pas dans le cadre des infractions exclues du bénéfice de mesures de grâce ou de mesures de réduction, remise ou commutation de peine, et si le temps qu'ils ont passé en prison, ce temps-là peut le permettre de voir la réduction enlever le temps de rester en prison, ils seront libérés, ils seront relaxés, quoi.
Est-ce qu'on connaît le nombre de prisonniers qui vont bénéficier de cette grâce?
C'est un grand travail que le ministère de la Justice doit maintenant abattre à commission à l'aide de tous les procureurs généraux pour dresser la liste des personnes bénéficiaires de ces mesures-là, parce qu'on ne les connaît pas à l'avance.
C'était Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa. Il était joint par Eddy Issango. Et c'est ici que prend fin cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Koumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet www.voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt. We'll be right back.